À l'occasion des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre, Réseau Femmes Colombie-Britannique, en collaboration avec plusieurs organisations francophones, co-présente ce vendredi, dans 4 villes, dont Vancouver et Victoria, une projection du film « Le fil » de Daniel Auteuil. La projection sera suivie d'un panel de discussion visant à sensibiliser le public aux réalités des victimes et aux ressources disponibles dans la province. L'une des panélistes est en ligne avec nous. Il s'agit de Maître Sandra Mandanici, avocate en droit criminel et présidente de l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique. Bonjour Maître.
Bonjour Madame Crézet.
Alors, ce film aborde des questions difficiles, telles que le féminicide, les violences intrafamiliales, l'inceste. Mais pour vous, malheureusement, tout ceci ne relève pas que de la fiction. Dans votre travail, vous êtes confronté à des situations aussi difficiles que celles-ci, des réalités souvent cachées, puisque se produisant souvent en huis clos. Vous en entendez beaucoup des histoires comme celles qui apparaissent dans le fil, Maître, dans le milieu francophone.
Écoutez, des causes de meurtre, évidemment, on n'en a pas à la tonne, bien heureusement.
Oui.
Mais évidemment, ça arrive. Mais nous avons beaucoup, beaucoup de dossiers de violence conjugale. Évidemment, moi, je pratique en droit criminel, je suis avocate de la défense, alors je défends les gens qui sont accusés de crimes, que ce soit des cas de violence conjugale ou autre. Je peux vous dire que la province, le gouvernement, la couronne prend les causes de violence conjugale très sérieusement. Alors, la majorité des plaintes qui sont apportées par les policiers se retrouvent devant le bureau du procureur, d'un procureur de la couronne. Et là, le procureur décidera s'il devrait y avoir une dénonciation de portée contre l'accusé. Très rare que nous voyons des hommes qui sont victimes, c'est plutôt les femmes qui sont victimes, mais ça peut quand même arriver. Je peux vous dire qu'en pratico-pratique, beaucoup, beaucoup de dossiers sont ce qu'on appelle un arrêt des procédures. Les arrêts des procédures sont déposés dans les dossiers, c'est-à-dire que la couronne décide de ne plus procéder dans certains dossiers de violence conjugale. Et la raison principale est souvent due à un manque de preuves. C'est-à-dire que si un individu est accusé de voies de fait, par exemple, alors la couronne doit prouver, évidemment, qu'il a commis des voies de fait et la majorité du temps, la couronne a besoin de la preuve, d'une preuve par témoignage de la victime. Et souvent, les épouses ou les conjoints ne veulent pas témoigner. Alors, la couronne se retrouve dans une situation où ils n'ont pas de preuves, à moins qu'il y ait des témoins indépendants, à moins qu'il y ait des vidéos ou autre chose. Mais si la victime ne veut pas témoigner, eh bien, la couronne se retrouve sans preuve et elle est dans l'obligation de déposer ce qu'on appelle, comme je vous ai dit, un arrêt des procédures. Moi, je peux vous dire que ça se passe dans beaucoup, beaucoup de cas, dans la majorité des cas. Pourquoi les femmes décident de ne pas témoigner? Écoutez, ça peut être plusieurs raisons. Et souvent, on essaie de négocier avec la couronne. Enfin, on essaie d'avoir certaines ententes pour aider la victime, pour aider l'accusé. Et souvent, une entente est mieux finalement que de se retrouver devant le tribunal et de procéder avec un procès.
D'accord. Alors, est-ce que le fait d'appartenir à une communauté minoritaire, qui ajoute évidemment à l'isolement, ça favorise en un sens aussi cette violence, je pense, aux femmes et aux enfants qui se retrouvent parfois encore plus dépendants de la cellule familiale, peut-être du conjoint ou de la conjointe violent, car isolés de leur famille, amis, et ne maîtrisant parfois pas la langue, sans doute pas non plus les rouages judiciaires, ne sachant pas vers qui se tourner.
Je pense que la question serait probablement, vous devrez probablement être posé à un ou une psychologue. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de soutiens qui sont donnés aux femmes, aux victimes de n'importe quel acte criminel. Alors, au palais de justice, il y a des gens qui supportent les victimes. Nous avons maintenant droit au procès en français en matière criminelle. Alors, si la victime parle français, ben évidemment, je pense que ça facilite les choses.
Oui, absolument.
Je veux préciser, par contre, que c'est l'accusé qui peux demander un procès ou en français ou en anglais ou un procès bilingue. Ce n'est pas le choix de la victime.
D'accord.
Souvent, les deux individus, le couple, tous les deux parlent le français. Alors, ils peuvent avoir un procès en français, ce qui, je pense, facilite les choses pour les parties.
Mais effectivement, la précision est importante, que la demande, elle vient de l'accusé. Ça peut changer les choses. Alors, il existe la violence, évidemment, physique qui se voit davantage, mais aussi la violence psychologique qui peut faire énormément de dégâts en santé mentale, notamment, et puis la violence financière aussi. Vous constatez parfois que les trois cohabitent?
Souvent, oui, souvent, c'est. Vous avez raison. Alors, on a de la violence physique, on a beaucoup de harcèlement. Parce qu'il y a des accusations de code criminel, évidemment, on a des voies de fait en tant que telles. Vous pouvez avoir des accusations de menaces quand on parle de violence. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle du harcèlement criminel. Et souvent, là, on retrouve des accusations de voies de fait et de menaces. Harcèlement, c'est un peu à part, mais écoutez, ce n'est pas rare. On voit souvent des causes de ce type-là devant nos cours de justice ici en Colombie-Britannique et vraiment là, partout au Canada.
Est-ce que vous avez aussi des femmes qui dénoncent leur conjoint, par exemple, incestueux ou violent envers les enfants? Ces femmes sont-elles protégées ainsi que les enfants? Parce qu'on le voit notamment, c'est un débat régulier en France, d'où je viens, des femmes qui ont rapporté des révélations de leur enfant à la police ou à la justice, des femmes qui ont dénoncé des faits graves, elles se voient placées par les institutions dans la posture de la dénonciatrice, manipulatrice, voire de la criminelle dans des cas un peu désespérés où elles refusent, par exemple, de présenter un enfant au conjoint parce qu'aucune mesure de protection n'est mise en place par précaution durant l'enquête ou la procédure. Est-ce qu'on a des faits similaires ici?
Non, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de l'entrevue, moi, je pense que les plaintes des victimes, des femmes en général, sont prises très au sérieux, tant par les policiers que par la couronne. Évidemment, ce sont des situations très difficiles pour un couple, enfin, et pour les enfants aussi, s'il y a des enfants, de se retrouver devant une cour de justice alors que papa est accusé, la mère décide ou non si elle veut témoigner. Enfin, je devrais préciser que lorsqu'un témoin, que ce soit un témoin victime ou un autre genre de témoin, reçoit un subpoena pour venir témoigner à la cour, il est dans l'obligation d'aller à la cour. Mais en pratique, je peux vous dire que souvent, les victimes décident tout simplement de ne pas se présenter, malgré le fait qu'elles aient reçu un subpoena. Et ce qui peut arriver dans un cas comme ça, c'est que la couronne pourrait demander au juge de décerner un mandat d'arrestation contre la victime si elle ne se présente pas à la cour comme elle devrait le faire. Mais comme je vous dis, la majorité du temps, les femmes ne veulent pas procéder. C'est ce que je vois depuis des années. Et comme je vous dis, on essaie à ce moment-là d'arriver à certaines ententes, d'aider la famille. Souvent, le mari ou le conjoint est prêt à aller faire ce qu'on appelle du counseling en matière de que ce soit d'alcool, de drogue ou de violence conjugale. Alors, on essaie de faire des choses finalement pour aider le couple. Mais comme je vous disais tout à l'heure, là, c'est le problème pour la couronne et pour les policiers, c'est que c'est dû à un manque de participation de la victime. Et souvent, on voit ça dès le début. La personne vient d'être arrêtée. Le policier essaie de parler à la victime, mais ils ne sont pas intéressés. Il leur dit « Moi, je ne coopère pas, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas participer à ce processus-là. »
Ouais, je comprends. Alors, est-ce qu'on peut rappeler aux auditrices quelles sont les ressources possibles, vers qui se tourner? Parce que les gens qui ont peu de moyens, ils peuvent hésiter à se tourner vers la justice, à prendre un avocat. Mais vous, par exemple, à l'Association des juristes d'expression française de Colombie-Britannique, vous offrez des consultations gratuites.
Oui, oui, on offre des consultations et je peux vous dire que, évidemment, s'il y a des femmes, les femmes qui sont victimes et qui ont besoin de conseils, nous allons les aider, que ce soit par moi ou par un autre avocat qui travaille avec nous. Évidemment, les avocats sont souvent occupés, mais on a quand même une bonne banque de données et nous pouvons les aider. Et aussi, ce que je devrais dire, c'est que les femmes aussi peuvent engager un avocat de pratique privée pour les représenter à la cour. Par exemple, si Mme Smith est victime et vous avez M. Smith qui est accusé, comme je vous disais, en général, c'est le procureur de la couronne qui va s'occuper du cas de Mme Smith. Mais Mme Smith peut quand même engager privément un avocat pour la représenter à la cour. Et ça, ça se fait aussi assez souvent et ça peut l'aider à naviguer finalement le processus pénal. Et comme je vous dis, je pense que ça facilite les choses. Mais nous, à la GEF, nous sommes disponibles et nous pouvons donner des conseils juridiques, que ce soit à la victime ou à l'accusé, quant à des procédures criminelles.
Mais merci beaucoup, Maître Mandadinci, pour toutes ces informations.
Merci beaucoup, Madame Crézet.
Cette entrevue a été rendue possible grâce au fonds IGL.